IDFM Radio, 98 FM.
Bonjour et bienvenue dans l'économie en direct sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes en Île-de-France, en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Aujourd'hui, vendredi 24 avril 2026, trois invités, trois univers et une même ambition, faire bouger les lignes. Car ce matin, on parle de notre corps, de nos villes et de notre futur. Mieux comprendre sa physiologie pour s'émanciper et prévenir les violences, réinventer nos espaces urbains face aux défis climatiques et enfin intégrer l'intelligence artificielle dans nos entreprises pour gagner en performance. Alors comment ces entrepreneurs passent-ils de l'idée à l'impact concret ? On en parle tout de suite avec mes invités. Bonjour Nathalie Gay, fondatrice du Fil Rouge.
Bonjour, merci.
Raphaël Dupont, cofondateur de Rhizosphère. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Et Sofiane Leilani, cofondateur Nelixia et Ikigai.
Ikigai, exactement.
Ikigai Manager, j'aurais dû répéter.
Bonjour.
Bonjour Sofiane. Bienvenue à tous les trois dans l'économie en direct sur IDFM Radio, une émission à retrouver en podcast sur le portail idfm98.fr.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Alors avant de commencer cette émission, je vous propose de faire un tour de table. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots votre activité, votre parcours. Et puis on développera un petit peu plus longuement ensuite. Donc Nathalie Gay.
Alors moi je suis spécialiste de la physiologie et d'anatomie. Et donc je propose des conférences, des ateliers, des jeux et de l'accompagnement individuel pour mieux comprendre son corps, faire de la prévention au niveau de tout ce qui est la connaissance du corps et les violences.
Merci Nathalie. Raphaël ?
Alors, Rhizosphère, on a pour but de retrouver le cycle naturel de l'eau dans le principe constructif des bâtiments ou le développement des villes ou tout projet de construction par le biais des toitures végétalisées, parking perméable, retrouver le circuit de l'eau le plus simple sans avoir à payer au niveau des stations d'épuration ou de se raccorder au niveau des égouts qui sont saturés.
D'accord, très bien. Merci Raphaël. Et vous, Sofiane ?
Oui, rebonjour. Donc moi, je suis le cofondateur de Nelixia et de Ikigai Manager. Donc Nelixia, c'est très simple. On est un cabinet de conseil spécialisé en IA où on intervient chez nos clients sur trois volets, que ce soit à la fois de la formation pour acculturer les équipes métiers à l'IA. On intervient également sur du développement d'applications autour de l'IA. Et puis ensuite, on intervient en troisième volet, on intervient directement chez les clients sur des projets de transformation digitale. Et puis pour Ikigai Manager, donc on a développé un CRM où on utilise l'intelligence artificielle pour faciliter les commerciaux en cabinet de conseil pour matcher des appels d'offres et des consultants disponibles.
Très bien. Bon, on va rentrer dans le détail dans quelques instants. Merci, Sofiane. Alors, on commence avec vous, Nathalie. Nous nous sommes rencontrés, Nathalie, le 17 mars, lors de la journée qui était consacrée aux droits des femmes à la préfecture de Pontoise. Et c'est vrai que quand j'ai entendu votre intervention, ça m'a touchée. Enfin, en tout cas, ça m'a parlé. Et c'est comme ça que j'ai eu envie que vous veniez nous en dire plus à la radio. Donc, je vous laisse nous expliquer comment vous en êtes venue à cette activité.
Alors moi j'ai d'abord été éducatrice spécialisée pendant 10 ans, donc travaillé auprès des familles et des enfants, et puis je m'y suis pas retrouvée sur la question des valeurs, et du coup j'ai eu envie d'accompagner mais de manière différente et en travaillant au départ. Donc j'ai fait une formation de doula et du coup j'ai commencé à accompagner les femmes autour de la naissance et de la périnatalité, mais pendant ma formation je me suis aussi rendu compte que on connaissait très mal nos corps, aussi bien en tant que femme qu'en tant qu'homme, Et que du coup, on était souvent assez passif dans ces périodes de changement physiologique qui sont la puberté, la grossesse, la ménopause et la fin de vie. Et que du coup, ça amène à beaucoup de violence parce que on ne connaît pas, donc on subit. Et j'avais envie vraiment de créer des espaces d'information. Donc au départ, j'ai commencé dans de l'individuel, où je faisais de l'accompagnement individuel sur ces périodes de changement physiologique, donc principalement au départ autour de la grossesse, puis la puberté. Puis j'ai commencé à créer des ateliers collectifs pour informer comment est-ce qu'était fait le corps, donc avec une grande maquette de 3 mètres sur 2 en 3D animée pour comprendre sa physiologie et son anatomie. Et puis de fil en aiguille, j'en suis arrivée à des conférences, à des formations pour déconstruire aussi tout ce qui est autour des croyances entre les genres et des compétences qui seraient ou des différences qui seraient soi-disant physiologiques alors qu'en fait on est très très similaires. Voilà un peu mon parcours et comment j'en suis là aujourd'hui.
C'était il y a combien de temps ça ?
Ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai commencé ce parcours-là, en 2015. J'ai fait ma première formation et puis je continue à faire de la formation en continu. Et ça s'inscrit aussi avec une partie aussi sur de l'ancrage dans des chartes, en fait. Mm-hmm. Mon travail est porté par des valeurs fortes qui sont inscrites dans des chartes de travail, justement pour encadrer, parce que c'est pas non plus des sujets très simples à aborder. On est confronté à beaucoup de choses. C'est aussi,
oui,
on parle d'intimité.
Dans tous les domaines.
Voilà, on parle d'intimité et du corps.
Mais ce que vous avez créé, c'est une innovation ou ça existait déjà ?
Alors, il existe des choses autour des menstruations. Il y a pas mal d'initiatives qui existent en France autour de la question des menstruations. Mais sous l'angle de la physiologie et de l'anatomie, non. C'est quelque chose d'assez
unique. Donc, vous allez vraiment créer un nouvel espace ?
Oui. Tout à fait.
Et quand vous parlez de la formation doula, c'est quoi doula ?
Alors doula, c'est un métier d'accompagnement de la femme aux périodes de changement physiologique qui est spécifique. En fait, le mot doula vient du grec ancien et c'était la femme qui accompagne, c'était l'esclave dans le grec ancien. C'était elle qui veillait sur sa maîtresse pour son bien-être et son confort. Donc en tant que doula, notre rôle, c'est un rôle qui est principalement sur le côté émotionnel, informatif et physiologique. Voilà, donc c'est soutenir le projet du parent pour qu'il ait toutes les informations et qu'il puisse construire son projet.
Et est-ce que vous avez fait des émules ? Enfin, je veux dire, est-ce que votre méthode maintenant est reprise par d'autres ?
Non, alors moi ça m'arrive de temps en temps de former des collègues qui s'intéressent à ça et qui voudraient développer leurs propres ateliers, donc je forme pour des collègues qui veulent se lancer, souvent c'est des doulas qui souhaitent aussi développer leurs ateliers. Ça reste autour souvent des menstruations.
C'est le sujet le plus, parce qu'on en parle déjà peut-être le plus, peut-être la fin de vie aussi, non ?
Sur la fin de vie,
Surtout avec tous les débats qu'il y a aujourd'hui autour.
Ça reste encore une toute petite partie. Voilà, c'est très peu connu. Puis accompagner la fin de vie, ça reste un moment où on pense pas forcément à ça. On va penser aux structures médicales, mais pas forcément à un accompagnement émotionnel, en fait. Parce qu'on est vraiment là sur le plan du soutien, d'écoute. Beaucoup d'écoute, c'est notre principal outil dans l'accompagnement.
Alors, pourquoi le fil rouge ?
La continuité, le lien, le fil, c'est le lien. Et le rouge, pour moi, il y avait au départ la question des menstruations, mais aussi la question de cette couleur de la continuité, c'est le sang, c'est la vie. Donc le fil rouge, c'est ça.
J'avais imaginé que ça pouvait être ça. Raphaël et Sofiane, est-ce que vous avez eu l'occasion de réfléchir à ces changements de vie dans notre propre corps ou vous découvrez à travers ce que nous dit Nathalie, Sofiane ?
Alors moi pour le coup, je découvre tout cela. C'est vrai que c'est une question que je me pose pratiquement jamais, mais qui est, je pense, très important parce qu'effectivement on évolue avec l'âge et effectivement forcément ça amène des changements physiologiques. Et pour le coup, en tout cas, c'est super intéressant.
Oui, c'est vrai qu'on pense aussi pas mal à l'adolescence. On en parle toujours, on dit que l'adolescence c'est un passage compliqué où le corps change sans que forcément on n'est pas forcément mature, le corps change et puis le cerveau suit pas, mais voilà. Et vous, Raphaël?
Alors moi, j'ai découvert la fonction de doula il n'y a pas très longtemps. C'était l'année dernière, lors des 20 ans de sortie de mon école, une école d'horticulture et de paysage.
D'accord.
Et j'ai une ancienne collègue étudiante qui était avec moi qui s'est formée à la fonction de doula et qui m'a expliqué tout cela. Et j'avoue, c'est un monde qui s'est ouvert.
Ah oui, oui, une nouvelle perspective.
Hein. Complètement.
Nathalie, donc connaître son corps permettrait de mieux prévenir les violences, qu'elles soient relationnelles, médicales ou professionnelles. Vous l'abordez comment ça ?
En fait, les violences, elles arrivent souvent quand on se comprend pas, on s'écoute pas, on se respecte pas. Et à partir du moment où on connaît pas son corps, on peut pas se respecter. Si on s'écoute pas et si on ne sait pas ses besoins, ses limites, ben c'est difficile de se respecter. Donc comprendre sa physiologie, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui est normal, pas normal, est-ce qu'avoir mal pendant ses règles est normal ? Non. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on doit souffrir. Et puis il y a aussi quelque chose, il y a un peu une légende comme quoi les hommes viendraient de Mars et les femmes de Vénus. Ça, c'est une construction sociale.
Oui, il y a un livre.
Il y a un livre qui n'a absolument aucun fondement scientifique. Hein. Il s'appuie sur rien de scientifique sur le plan physiologique. Et au contraire, on a beaucoup, beaucoup de similitudes. Au changement pubertaire, au changement de la ménopause et l'andropause pour les hommes, hein, c'est les changements qui sont les mêmes physiologiquement, on va passer par les mêmes choses. Donc tout le monde, individuellement, c'est différent pour chacun, mais les signes, hein, les bouffées de chaleur existent aussi à l'adolescence, à la ménopause et à l'andropause pour les hommes. Voilà, mais on le perçoit pas de la même manière comme si c'était les changements. Donc le fait de mieux se connaître et de regarder ben en fait qu'on vit ces mêmes changements sur le plan émotionnel, physique, physiologique, je crois qu'il y a que deux changements à peu près différents entre la fille et le garçon dans ces grandes périodes de changement physiologique au niveau de la production des gamètes, voilà, et au niveau de l'arrêt de la production des gamètes. D'accord. Mais les hommes ne sont pas fertiles non plus jusqu'à la fin des jours. C'est une légende, désolée.
Ah ben on entend quelquefois un monsieur très âgé dont l'épouse très jeune est enceinte, mais bon, c'est peut-être pas forcément la réalité. Alors, vous parlez carrément de... Ah oui, non, avant je voulais dire, voilà, vous intervenez à différentes étapes de la vie, donc puberté, grossesse aussi, ménopause. Est-ce qu'il y a encore des tabous ? Parce que là, vous parlez avec beaucoup de liberté de menstruation, et c'est très bien. Je pense qu'il y a même 10 ans encore, on n'aurait peut-être pas prononcé ce mot aussi facilement, j'ai l'impression.
En fait, quand je fais les ateliers, les formations, vraiment l'idée, c'est de parler de la vulve, des seins, comme on parle du nez, du visage. Voilà, c'est factuel en fait, c'est notre physiologie, notre anatomie. On rentre pas dans les questions de la sexualité ou la relation à l'autre. Alors ça dépend des thématiques du sujet, mais quand je fais de la vulgarisation, on parle de physiologie en fait. C'est physiologique, c'est comme ça, tous nos corps fonctionnent pareil et on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc bien sûr que c'est pas un sujet qui est forcément simple pour tout le monde, mais moi j'ai jamais eu de personnes qui m'ont dit « Ah franchement c'était gênant ». Au contraire, la manière dont on l'aborde, puis c'est toujours en partant des connaissances et des questions des gens. Moi j'arrive pas avec un savoir que hop, je déverse. C'est chacune va partager son expérience, ses connaissances. Je dis chacune, mais c'est aussi chacun. J'ai des fois aussi des hommes dans mes espaces d'intervention. Donc l'idée, voilà, c'est qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, et voilà. Et puis après, il y en a qui continuent à croire ce qu'ils ont envie de croire, parce que moi, je n'apporte qu'une expérience et un savoir scientifique basé sur les dernières données. Mais dans 10 ans, elles changeront encore. Et puis il y a 10 ans, bah voilà, il y a des choses que j'amène à chaque fois qui sont des choses différentes, qui évoluent avec le temps, parce que bah les connaissances aussi évoluent avec le temps.
Alors, vous parlez d'émancipation par la connaissance de soi. Et concrètement, quels changements vous observez chez les personnes que vous accompagnez ? Et qui sont-elles, ces personnes ?
Alors, quand j'accompagne en individuel, c'est différent du collectif sur les formations et sur les ateliers. Quand j'accompagne en individuel, on vient me chercher souvent parce qu'il y a du stress, de l'inquiétude, un manque de confiance en soi, très clairement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les accompagnements, moi, j'invite aussi à se poser les questions de ce qu'on a envie soi. Parce que souvent, je vais donner l'exemple de la maternité, on y va, on suit les cours de préparation, on va se faire accoucher, ben moi j'inverse le rôle, c'est-à-dire qu'en fait on va accoucher, on redevient acteur, on se pose les questions et surtout on pose des questions parce que c'est pas tant les violences, elles existent à partir du moment où on se sent passif et où on subit. On peut se retrouver avec une césarienne d'urgence, mais si tout avant le processus on s'est senti écouté, respecté et qu'on a pu poser les questions, Ben en fait, cette césarienne, qu'elle soit d'urgence ou qu'elle soit finalement décidée pour X raisons, elle sera vécue de manière très différente. Mmh. Et en fait, la violence, elle vient là, quand on n'est plus respecté en tant que personne et quand on n'est plus acteur.
Mmh. Et donc, les personnes que vous accompagnez, qui sont-elles ? Je parle des particuliers, en tout cas.
C'est très variable. Des couples, des mamans solo, parfois, autour de la puberté aussi, des parents qui ont envie de, voilà, qui savent pas trop comment accompagner, qui proposent un espace pour leur enfant. Alors, des fois, en binôme, mais souvent tout seul. J'accompagne aussi un petit peu la fin de vie.
Oui.
Voilà, ça, c'est un espace qui
mais
est.
Pas dans des structures.
Non. Des personnes qui sont en fin de vie. Alors la fin de vie, c'est très varié. Hein. Oui. Ça peut durer 2 jours, ça peut durer 2 ans.
Oui.
Voilà, c'est vraiment au moment où le corps se dégrade complètement et qu'il y a un changement tellement fort dans le corps que ça bouleverse tout. La relation aux autres, la relation à la famille, l'émotionnel, le physique, l'autonomie. Hein, la perte d'autonomie est très, très violente à subir. Donc c'est aussi comment écouter et accueillir ces changements-là.
Et alors, comment on fait appel à vous ? Parce que c'est pas justement votre activité n'est pas forcément très connue, donc.
Alors, quand je travaille avec les particuliers, on a toute une partie. Donc, on a un référentiel national, l'Association des doulas de France, où on est engagé sur une charte de fonctionnement, de valeurs, et où on a un référentiel. On est référencé au niveau national. Ensuite, il y a mon site internet, lefilrougedoula.fr, sur lequel on peut me retrouver. Et puis voilà, moi je travaille principalement et essentiellement en présentiel, même si le distanciel a le vent en poupe, c'est pas mon truc. Moi je suis dans la relation humaine, c'est ce qui est important.
Oui, mais ça se comprend parce que voilà, c'est même si les visites médicales en visio sont très utiles pour un renouvellement de d'ordonnance. Ça reste quand même, il y a certainement une frustration quelque part.
Et puis c'est très différent, c'est-à-dire que le médical a toute sa place. Moi, je ne fais absolument rien de médical, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est vraiment deux métiers complètement différents. Moi, je suis sur de l'accompagnement émotionnel et de l'information, et c'est vrai que la partie présence, moi je travaille à domicile quand je fais de l'accompagnement individuel, après quand je fais les formations et les ateliers, là je me déplace dans les structures, mais le fait de venir dans le cadre de vie de la personne, bah c'est aussi la soutenir dans son espace de vie.
Bien sûr, c'est lui conserver ses repères.
Puis j'accompagne la personne et son entourage, en fait, les parents, le conjoint ou la conjointe, les enfants.
Et alors, un accompagnement est une moyenne de temps que cela prend ?
Alors, c'est très variable. Ça peut aller de 3 rendez-vous à 10 rendez-vous. Ça va dépendre du besoin. Ça va dépendre si je viens que en prénatal, si je suis en présence à la naissance, si je fais que du postnatal. Chaque famille a ses propres besoins et voilà, ses propres questionnements. Donc, c'est propre à chacun.
Et quels sont les retours de alors ce sont des clients, des patients, comment vous les appelez ?
Ce sont des clients.
Les clients.
Les patients, je les laisse aux médicaux.
Oui.
Ce sont des clients. Mais malgré tout, je suis une entreprise en fait.
Oui,
donc souvent c'est de la sérénité. C'est merci, grâce à toi, je me suis sentie sereine. J'ai l'impression d'avoir traversé les choses sereinement. Quand on m'a posé des questions, que je me suis retrouvée face à une situation, je savais quoi faire. Parce que c'est aussi ça qui est important, c'est que pour pas subir, il faut déjà avoir anticipé et visualisé plusieurs possibilités. Quand on parle d'un projet de naissance, ça veut pas dire je veux accoucher dans telle position, à tel endroit et tel. Voilà. Le projet de naissance, c'est vraiment quel est mon besoin profond ? J'ai besoin d'être respectée, j'ai très peur de la péridurale ou j'ai envie qu'on me fasse confiance. Voilà, c'est des questions aussi pour permettre un échange et une relation avec les autres. Et quand je travaille sur ces questions-là, par exemple dans la question de l'emploi, c'est aussi, comment je respecte mon corps et comment je vais travailler et chercher une entreprise qui respecte mon corps et mes valeurs ? Parce que par exemple, on peut très bien aller travailler dans une entreprise où il n'y a jamais de pause, où aller aux toilettes c'est impossible. En fait, là déjà, on n'est plus à l'écoute de ses besoins et de ses limites et d'être respecté aussi dans sa créativité. C'est aussi tout ça. Donc la question de l'écoute de ses besoins physiologiques, elle vient dans toutes les sphères de la vie professionnelle et dans ses étapes de changement de vie.
Je m'adresse à Sofiane. Ce discours est très loin de l'intelligence artificielle, Sofiane, non ?
Alors, très loin, oui et non, parce que aujourd'hui, il y aura une question qui est existentielle, c'est-à-dire que d'un côté, l'IA fait partie prenante de notre vie, Et donc, du coup, ça va amener forcément à des changements de mode de vie, même de travail. Là, on a parlé du travail dans le sens où il y a certains métiers qui ne s'adaptent pas à certains besoins, en tout cas physiologiques. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça peut soit aider, du coup, certains métiers pour permettre de pouvoir répondre, en tout cas, à ces fameux besoins. Et puis ensuite, l'IA peut également aussi être un frein là-dessus. Donc voilà.
Très bien, merci Sofiane. Raphaël, vous vouliez intervenir?
Moi, dans mon métier, sur les végétalisations de toiture, etc., on est en plein dans les contraintes du réchauffement climatique, oui, qui impacte donc la physiologie et notre senti. Et on voit qu'on est connecté dans l'activité, dans les activités pour améliorer le ressenti tout simplement dans le travail, mais dans la vie de tous les jours ou dans notre vie en communauté, en citoyenneté.
Donc quelque part, vous pourriez avoir besoin de consulter Nathalie pour avoir plus de renseignements. Allez, je vous propose qu'on marque une pause avec Nino Ferrer et Le Sud avant de poursuivre cet échange.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. Dirait le sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'un million d'années, et toujours en été. Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse, y'a plein de chiens, y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années et toujours en été.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin j'accueille Nathalie Gay, fondatrice du Fil Rouge, Raphaël Dupont, cofondateur de Rhizosphère et Sofiane Leilani, cofondateur Nelixia et Ikigai Manager. Nathalie, vous travaillez désormais beaucoup avec des structures. Comment cette évolution a-t-elle transformé votre activité?
Déjà, en fait, moi, je n'avais pas forcément ce projet-là au départ. Et en fait, j'ai créé une soirée-jeu au mois de mars l'année dernière où j'avais envie qu'il y ait des personnes qui s'interpellent sur le sujet, mais je voulais pas qu'il y ait que des femmes. J'avais envie qu'il y ait aussi des hommes. Mmh. Et du coup, j'ai offert cet espace de jeu à la boîte à Cergy, donc qui est un Fab Lab. Et du coup, c'était quand même assez facile d'avoir des hommes, puisque je m'étais dit, je vais faire venir ceux qui fréquentent le lieu.
Oui.
Et ça a été réussi, parce que j'ai fait un jeu toute la semaine d'avant, donc avec des petits quiz, ce qui donnait un peu envie de venir. Donc après, il y avait la soirée jeu, il y avait aussi un peu à manger, ça aide.
Toujours.
Et du coup, pour les faire venir, je me suis dit, faut aussi que je parle de la physiologie des hommes. Et c'est vrai que moi, je connaissais très bien celle des femmes, puisque ça fait des années que je me forme dessus. Et là, en fait, c'est vraiment là où je me suis dit, mais c'est incroyable, les similitudes qu'il y a entre les femmes et les hommes.
Vous-même, à l'époque, vous n'étiez pas aussi...
Pas autant. Ouais, ah non, non. Ouais. Donc du coup, là, j'ai commencé aussi à beaucoup chercher, travailler sur ce sujet-là. Et c'est ce qui m'a amené après à créer une conférence gesticulée qui s'appelle « Les étonnantes similitudes entre les femmes et les hommes ». Et de ça a découlé des demandes d'intervention sur de la formation pour sensibiliser à la question des genres, à la question des besoins et des respects physiologiques. Donc c'est comme ça que j'ai été amenée à travailler dans le milieu du travail.
D'accord. Et qui est-ce qui vous a demandé d'intervenir ?
Alors c'est la structure Maison Solidarité Femmes 95,
oui, bien sûr,
avec Mariam Baraka, que j'ai rencontrée sur un forum droits des femmes et des filles le 21 mai dernier à Margency, qui avait lieu dans le cadre de la fête de la musique aussi, il y avait un forum. Et du coup, elle m'a proposé d'intervenir.
Oui, c'était. C'était en juin.
Juin.
Ah oui, moi j'y étais. C'est nous qui avons couvert l'événement. On a fait une. J'ai interviewé Thierry Brun, le maire de Margency, et puis bien sûr Mariam Baraka, plusieurs personnes.
Voilà, et donc du coup, elle m'a commencé à me proposer ça, et puis je travaille toujours avec elle, avec la structure Maison Solidarité Femmes 95, sur un projet d'accompagnement qui s'appelle l'Académie des Femmes, et qui est justement, donc on est plusieurs intervenants sur différentes thématiques, et donc chacun avec nos thématiques, on accompagne des femmes, donc là, pas spécifiquement victimes de violences, mais des femmes qui sont éloignées de l'emploi, et pour lesquelles on va venir en gros redonner... une prise de conscience sur leurs compétences et sur retravailler sur la confiance et la question de l'émancipation.
C'est
aussi
ça,
elle est en lien avec ça. Si je me connais bien, forcément je me sens plus en confiance.
Je n'accepte pas n'importe quoi et respect et confiance, on sent que c'est vraiment ça fait partie de vos valeurs.
Tout à fait. C'est très précieux.
Alors aujourd'hui, vous êtes quand même impacté par les suppressions budgétaires. Quelles conséquences concrètes sur vos actions ?
Moi, je travaille quasiment que avec des budgets d'appels à projets. Donc, les appels à projets, c'est éphémère. Quand on a fini de répondre à cet appel à projet, et dans toutes les structures avec lesquelles je travaille quasiment, soit c'est des structures qui, elles, dépendent d'appels à projets, soit de budgets qui sont votés ou annulés la fois d'année suivante parce qu'on a moins d'intérêt pour cette thématique-là ou ce sujet-là. Les villes qui ont de moins en moins d'argent. Donc en soi, ça m'impacte fortement parce que du coup, pour pouvoir vivre de mon activité, j'ai besoin d'avoir énormément de partenaires, sachant que c'est pas forcément des partenaires qui vont pouvoir m'embaucher beaucoup, puisque ils ont des budgets limités sur des temps limités. Donc c'est ça, un impact fort. Et puis la cause des femmes qui devrait être la cause humaine du bien vivre ensemble, parce que la question des violences, elle impacte autant les hommes que les femmes, parce que les hommes sont aussi pris dans des injonctions à la virilité qui sont aussi très difficiles et aussi à s'oublier complètement de leur corps. Donc en fait, que ce soit les femmes ou les hommes, on est tous pris par cette absence de considération de la physiologie et de la connaissance de soi. Et donc l'idée, c'est que ça devrait être un sujet primordial, et ça l'est pas.
Ça l'est pas. Aujourd'hui, vous êtes bien sûr à la recherche de partenariats. Quel style de partenariat cherchez-vous ?
Les structures des villes, par exemple, parce que je propose des ateliers autour du cycle, autour de la connaissance de l'anatomie et de la physiologie au niveau de la puberté, mais aussi la ménopause. Les villes, les centres culturels, les associations qui accompagnent les femmes. Mais aussi les entreprises, parce qu'aujourd'hui, avec le RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, toutes ces questions autour de la question de l'égalité de genre, elle est importante et elle est à mettre dans cette partie-là. Donc moi, toute cette partie-là, soit sur des espaces de jeu, soit sur des temps de formation et d'information sur ces thématiques-là, voilà, c'est aussi là où je peux intervenir.
Et le fait que la santé mentale soit la grande cause nationale, ça l'était l'année dernière et c'était reconduit cette année, est-ce que ça ne peut pas être une ouverture pour vous? Parce que
alors,
j'imagine
aussi,
que ça en fait partie.
C'est aussi des sujets sur lesquels je vais avec les villes, donc notamment la communauté d'agglomération de Cergy, avec laquelle je suis en lien sur ces thématiques-là. Parce qu'effectivement, il y a les questions des journées de l'emploi, il y a les questions aussi sur ces thématiques-là qui sont,
Importantes.
Ouais, ouais, qui sont importantes et puis qui sont des sujets d'actualité sur lesquels ils travaillent.
Alors, dans votre actualité, je vous laisse nous dire votre actualité pour le mois de juin.
Du coup, en juin, j'ai une table ronde sur la question de la ménopause. Qui sera au niveau de Pontoise avec deux autres professionnels, une en naturopathie et une en médecine chinoise, sur lesquels on va venir justement discuter chacun avec notre angle de vue sur ce sujet-là. J'ai la conférence Ménopause si je t'aimais sur la ville de Sartrouville en juin. Et voilà, dans les petites actualités. Et puis après, j'ai toujours l'atelier premier cycle et puberté, qui lui, en fait, une fois que j'ai suffisamment de monde, je propose l'espace soit sur Pontoise, soit sur Beauchamp.
D'accord.
De lieux dans lesquels.
Donc vous lancez les invitations quand?
Les invitations, il suffit de sur le site, on va s'inscrire, on est sur liste d'attente et dès qu'il y a cinq binômes, hop, je lance une date avec les binômes en question pour
très
ces
bien.
Ateliers premier cycle et puberté.
Et alors, si vous deviez faire passer un message aux décideurs publics, hein, quel serait-il?
La question de la santé, elle est primordiale et elle passe pas que quand on est malade. En fait, ça se travaille avant. C'est des sujets qui sont essentiels, qu'on devrait aborder dès l'enfance, dès la petite enfance. Donc, bien sûr qu'il y a des choses qui sont faites au niveau des établissements scolaires. Hein. Il y a trois sessions obligatoires dans les établissements scolaires dès l'enfance. Mais ça suffit pas et surtout faut former les professionnels parce que c'est des sujets qui sont quand même délicats à aborder et voilà, c'est très bien que les enseignants puissent le faire, mais ça suffit pas.
Ça suffit pas, oui, il faut un plus. Je donne la parole à Sofiane et Raphaël. Vous avez une question à poser à Nathalie sur en complément? Pas forcément.
déjà. On apprend potentiellement dans nos pépinières d'entreprise, etc., à avoir des interfaces possibles avec ton activité et tout simplement le bien-être ensemble. Si on se connaît bien, on pourra que mieux travailler ensemble aussi. Donc ça, c'est des choses, c'est pas que des idées, des concepts, etc., mais c'est une réalité dont on prend conscience actuellement et qui, je pense, il y a 10... ou 20 ans n'était pas maîtrisé, même si le mot doula vient du grec ancien, etc.
Oui, oui, c'est ça, on l'avait pas encore mis
on l'avait oublié peut-être
à l'ordre du jour.
En France ça fait que 20 ans en fait que métier est revenu.
Et moi j'aimerais rajouter surtout que effectivement on a souligné un point important, c'est que la santé mentale aujourd'hui en entreprise, c'est un sujet qui est clé. Et je pense surtout que, et c'est là où ton activité est vraiment intéressante, c'est-à-dire que grosso modo, le fait de ne pas connaître soi-même, le fait de ne pas comprendre sa physiologie, peut jouer également un rôle dans la santé mentale en entreprise. Et le fait d'intervenir dans les entreprises, ça, je trouve ça super intéressant.
Et là où c'est aussi un moment clé, c'est la parentalité, parce que ça impacte énormément le milieu du travail, et s'il n'y a pas de compréhension entre l'entreprise et le salarié sur ces sujets-là, c'est voilà, vraiment une question phare.
Merci Nathalie, fondatrice du Fil Rouge. Merci beaucoup pour votre éclairage passionnant, puis votre expertise et votre passion. On comprend que vous êtes à fond.
Merci
infiniment. Allez, on va respirer un peu en musique avec Vianney et Gustavo Dudamel et l'orchestre philharmonique de Radio France et le titre Alléluia. Et on revient juste après pour la suite de notre débat.
Un jour, une dame a dit d'accord, donnez vos larmes, j'en ferai de l'or. On raconte qu'elle sommeille en chacun de nous. Elle n'a pas d'âge et son visage importe moins que son message. Un jour viendra le temps de l'Alléluia. Alléluia. Un jour la dame a dit d'accord, je prends les flammes mais pas la mort. On raconte qu'elle a fait son refuge en nous. Après l'effroi, vint le soleil, et la voilà de ses merveilles. Il est venu le temps de l'Alléluia. Alléluia. 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 La dame dit, vous les forts, gardez la paix comme un trésor. On raconte qu'elle est belle mais fragile comme nous, qui abandonne et déjà mort, mais qui espère, respire encore. Et le monde attend le temps de l'Alléluia. Alléluia. 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 Alléluia.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Merci d'être à notre écoute jusqu'à 11h. Ce matin, nous parlons de physiologie, de préservation de l'eau et d'intelligence artificielle. Et donc, en compagnie de Nathalie Gay, fondatrice du Fil Rouge, Raphaël Dupont, cofondateur de Rhizosphère, et Sofiane Leilani, cofondateur Nelixia et Ikigang Manager. Alors, Raphaël Dupont, cofondateur de Rhizosphère. Déjà, je voulais dire que nous avions l'occasion aussi de nous rencontrer lors de la fête de la nature à Deuil.
Tout à fait.
Vous faisiez partie, j'étais la médiatrice et vous-même, vous étiez un intervenant. Et c'était très, très intéressant. Hein. On a eu des échanges passionnants ce jour-là.
Très riche.
Et je vous avais proposé de venir dans mon émission.
En effet, en voilà, effet.
Donc, je n'invite pas n'importe qui, hein, vous le comprendrez bien.
Challenge.
Donc, voilà, challenge. Mais on s'est retrouvés à 14K pour la journée de Créadet. Donc, présentez-nous comment êtes-vous venu à créer Rhizosphère, Raphaël?
Alors, il y a une vingtaine d'années, je suis diplômé en horticulture et paysage après un Erasmus en Allemagne où il y avait un sujet de végétalisation de toiture qui était une option et dont on n'entendait pas du tout parler en France. Donc pour moi, c'était une petite spécificité. Et en sortant de mon école, j'avais une spécialité sur les insectes et les pollinisateurs, donc rien à voir. Mais je n'ai pas trouvé de travail dans ce domaine et j'ai fait une petite recherche internet des entreprises dont le sujet était les toitures végétalisées et j'ai intégré une de ces structures il y a une vingtaine d'années qui était, on va dire, un peu à la marge et novatrice, parce qu'à l'époque...
Oui, sans imaginer qu'aujourd'hui...
Non, du tout. À l'époque, on nous prenait pour un peu des uluberlus qui mettaient du verre sur les bâtiments et on comprenait pas bien l'utilité et ce que faisaient les architectes à mettre du verre sur les bâtiments.
En quelle année, Raphaël ?
Ça, c'était en 2004.
D'accord.
En 2004.
Il y a 20 ans.
Il y a une vingtaine d'années, tout à fait. Et j'ai fait mon cursus dans différentes entreprises en tant que salarié. Et il y a 4 ans, à la suite d'un parcours, j'ai décidé avec un collègue de sauter le pas. Et on est devenu cofondateur de Rhizosphère pour retrouver le cycle naturel de l'eau dans le principe de construction. Parce que on s'est rendu compte que depuis 20 ans, la recherche dans le monde de la construction a bien changé. On ne fait plus du beau, on doit faire de l'utile pour vivre, mais de l'utile aussi dans un contexte climatique qui devient de plus en plus compliqué, dans un contexte où le foncier est plus difficile à avoir en milieu urbain et qui coûte de plus en plus cher. Et tout simplement de pouvoir vivre dignement sans avoir les risques qui nous entourent, les risques d'inondation, les risques d'avoir trop chaud,
de sécheresse,
etc. Et on l'a bien vu lors du Covid où on était tous renfermés et il faisait assez chaud dès le premier confinement. Et on s'est bien rendu compte que nos villes qu'on avait un peu aseptisées pour vivre correctement, parce que c'était une façon de penser à l'époque, elle a bien changé parce qu'on a oublié la nature et que y avait des principes fondamentaux. Une goutte d'eau, elle tombe sur le sol, elle nous permet de boire certes, mais elle doit retourner au sol ou pouvoir nourrir des plantes pour après être évaporée, retourner naturellement au niveau de l'atmosphère et pas ruisseler très rapidement sur nos bitumes ou sur nos ardoises, etc. pour aller dans un égout, pour être traité dans une station d'épuration que personne ne veut à côté de chez lui d'ailleurs.
Oui, c'est ça, oui, comme toujours.
Donc,
un cycle qui jusqu'à présent ne nous avait pas vraiment on nous avait pas interpellé
complètement. Ça allait vite,
ouais.
Ça allait directement dans les égouts. On le voit pas, mais le problème c'est que les villes ont des réseaux qui sont saturés, qui n'ont pas forcément été dimensionnés comme il faut depuis les années 70-80, etc. Et donc maintenant, grâce à des réglementations, etc., on doit prendre en compte cette eau qui arrive sur nos parcelles que l'on construit, et on doit trouver des solutions de gestion de cette eau, soit en toiture, sur des zones qui ne sont pas visibles forcément. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas un métier forcément très visible. Ou bien au sol, au niveau des parkings, des voies pompiers. On parle beaucoup des cours oasis dans les écoles également, des îlots de fraîcheur. Tout simplement pour que l'eau puisse, au lieu de ruisseler sur un bitume ou sur un toit, puisse s'infiltrer dans le sol et retrouver son cycle naturel.
Oui,
par le biais des toitures végétalisées ou parking perméable, c'est ce que nous proposons depuis 4 ans chez Rhizosphère.
C'est ce qui a été installé sur le parking de Verdun à Enghien. Tout le parking a été refait l'année dernière avec justement pour permettre cet écoulement.
Alors on le voit sur plein de projets autour de nous sur Enghien, mais aussi à Soisy-sous-Montmorency, comme la vague, le complexe végétalisé sur la vague. Ça peut être sur des toits en plat, en pente, parking perméable. Alors c'est pas forcément végétalisé, ça peut être aussi gravillonné. Le tout, c'est d'être perméable.
Là, c'est pas végétalisé, mais il y a tout un système de pavés qui sont là avec une fente autour et l'eau peut circuler.
Alors, il y a toute une réflexion. En effet, le pavé peut être utilisé. Alors, nous, on l'utilise pas beaucoup parce que on évite de stocker la chaleur en milieu urbain. Et il faut pas oublier que le béton, ça peut être ça peut concentrer la chaleur.
C'est un conducteur. Oui.
C'est un conducteur. Donc, c'est bien. C'est
permis, mieux déjà, c'est mieux que rien.
C'est mieux, mais il y a toute une réflexion à avoir et c'est celle que nous menons actuellement sur les bétons utilisés pour faire ce genre de réalisation.
C'est-à-dire qu'en fait, cette option qui était en marge il y a 20 ans est devenue une urgence aujourd'hui.
Et une règle. Ouais, et une règle qui est définie dans les PLUI locaux. Mmh. Dès qu'on va avoir un toit plat ou dès qu'on va avoir une réfection ou une extension, on va devoir intégrer un procédé qui permet l'infiltration à la parcelle. C'est grâce aux lois résilience qui existent.
D'accord. Alors, donc on a compris, hein, vous proposez des solutions de toiture végétalisée ou parking imperméable. Perméable. Est-ce que c'est accessible aussi aux particuliers?
C'est complètement accessible aux particuliers. On commence, j'ai l'habitude de dire qu'on commence de la niche aux chiens jusqu'aux hôpitaux ou bien les grands bâtiments publics. Il faut savoir qu'on a fait l'Adidas Arena Porte de la Chapelle pour les Jeux Olympiques.
D'accord.
Donc, des choses à dimension nationale, mais on fait également les extensions des particuliers, une extension bois d'un toit de garage ou d'une véranda ou d'une cuisine. Dès qu'il y a un toit plat, on peut faire une végétalisation. On peut faire en pente aussi, mais ça sera beaucoup plus technique pour éviter, pour maintenir le système en place.
Oui. Vous intervenez en tant que bureau d'études ou vous êtes vraiment, vous réalisez les chantiers?
Alors, on intervient sur toute la phase de chantier. Pour de la conception à la réalisation. Mmh. Donc, les architectes qui répondent à un appel à projet ont des contraintes pour gérer l'eau sur leurs projets d'école, d'EHPAD, d'hôpitaux ou de projets immobiliers pour un promoteur. Et donc, ils vont utiliser des techniques pour pouvoir gérer l'eau à la parcelle. Et nous, on fait partie du dispositif qui existe. Donc, ils vont venir nous consulter à ce moment-là pour qu'on puisse faire des prescriptions et des calculs par le biais des végétalisations, etc. Faut savoir que de plus en plus dans le principe constructif, on a des obligations de labellisation également des bâtiments sur le choix des matériaux, mais aussi sur la diversité végétale proposée pour être un support de biodiversité, un accueil de nidification pour certains types de d'oiseaux, tout simplement aussi pour être un corridor biologique aussi. Il faut penser à tout. Et ce qui fait que maintenant on travaille à la fois avec des architectes, des cimentiers, des gros œuvres, des étancheurs couvreurs, mais également avec des écologues, des paysagistes. Donc on a un pied. On fait un grand écart, nous sommes très souples.
C'est ça, vous êtes un peu le lien entre toutes ces activités, enfin ces spécialisations.
Complètement, complètement, et donc du sol à la toiture.
Alors pour le coup, Sofiane, je me disais que là, en revanche, l'intelligence artificielle, elle peut intervenir pour la gestion de l'eau.
Oui, effectivement, l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va permettre de pouvoir mettre en place des indicateurs automatiques qui peuvent apporter certains KPI, notamment pour optimiser en tout cas le cycle de l'eau et notamment peut-être même au niveau de l'architecture
Oui, c'est ça. Oui, c'est une vraie. Je crois que ne serait-ce que Raphaël parlait de canalisation saturée, mais je crois qu'il y a des spécialistes de canalisation qui utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui pour trouver les fuites et tout ça.
Et puis nous, on utilise aussi des logiciels de calcul et d'ABAC.
Voilà,
c'était des tableaux, mais on a tout ça maintenant un petit peu automatisé pour dimensionner, ce qu'on appelle dimensionner nos structures.
On peut dire quand même que là, on est cinq personnes dans le studio. On est quand même tous maintenant très conscients de ce problème de l'eau. Est-ce que vous le ressentez aussi?
Il y a 20 ans, quand on parlait d'inondation, etc., sans être alarmiste, parce que moi, je fais une écologie pragmatique, hein, je suis pas là.
Je
suis dans le concret des choses.
À son propre niveau,
mais
pour se laver
les
dents, pour prendre des douches et tout, on est vraiment... je pense, je sais pas vous, mais...
Mais du particulier jusqu'au public, on a compris que l'eau était une ressource chère et précieuse, et dans tous les projets neufs ou réfections, on pense, les architectes, mais pas que ça, les mairies, toutes les collectivités ou même le simple particulier, pense à gérer l'eau ou à la stocker pour pouvoir tout simplement arroser son jardin. Et d'ailleurs, il y a des aides au niveau départemental qui existaient pour connecter sa toiture à des réserves d'eau. Tout ça, on travaille en synergie. Hein. On a oublié que la nature pouvait être quelque chose d'important et bénéfique pour nous et que c'était pas quelque chose de dangereux. Et pendant des années, la ville s'est construite pour repousser un peu la nature assez loin, sauf dans des parcs qu'on avait bien définis et dessinés. Ça, c'est la culture française et le jardin à la française. Alors certes, Le Corbusier avait mis quelques toitures suspendues sur des terrasses béton, mais le retour de la nature, le principe de renaturation, c'est un concept vraiment depuis une vingtaine d'années qui est assez court.
Oui, je crois que quand vous dites qu'on repoussait, on la respectait même pas du tout, la nature. Hein. On était
on la contraignait le plus possible.
On retrouve les mots de Nathalie. Raphaël, vous parlez donc de cinquième façade hein, pour les toitures.
Tout à fait.
Mais pour vous, c'est encore sous-exploité.
Cette cinquième façade, la cinquième façade, c'est le toit, tout simplement. Et cette cinquième façade, on le voit bien dans les zones industrielles, où on a du bâtiment industriel en béton ou métallique, sont des toits plats, mais on n'imagine pas ce qu'il peut y avoir sur ces toits-là, et généralement, il n'y a pas grand-chose. Et donc, on imagine que chaque goutte d'eau qui tombe dessus, piouf, ça descend directement dans les égouts, les gouttières et dans des bassins de stockage si on a des obligations de gestion à la parcelle. Et donc, c'est les fameuses lois qui ont été passées vont imposer des techniques alternatives de gestion de ces eaux sur tout nouveau bâtiment ou même dans les prochaines années sur des bâtiments en réfection, en extension pour mettre une technique de gestion de l'eau, soit par les toitures végétalisées, les parkings perméables ou autres. Hein, il n'y a pas que nous, mais on fait partie de ces techniques. Il faut savoir que nous, la toiture végétalisée, dès 10 cm d'épaisseur, on stocke au minimum 25 litres d'eau au mètre carré. Et 10 cm d'épaisseur, on arrive à faire pousser des petites plantes grasses, comme les sedums, hein, qui est la grande famille, qu'on trouve naturellement sur des vieux murs, des éboulis. Ou bien si on fait un peu de randonnée en montagne, parce que ce sont des plantes dites pionnières qui arrivent sur des milieux très très pauvres. Et le but, c'est de pas forcément alourdir les bâtiments et on peut faire des végétalisations sur des structures très peu épaisses et légères.
Mais alors ça demande de l'entretien quand même.
Alors très peu, très très peu. Faut savoir que un toit plat où il y a du gravier, protection simple, on doit monter normalement une fois par an pour aller juste nettoyer l'évacuation pluviale, les gouttières. Eh bien, en toiture végétalisée, quand on est sur une toiture qui est bien développée, c'est une fois par an aussi, on monte, pas besoin de tondre, on a juste besoin de venir nettoyer ces évacuations pluviales. On est considéré comme une protection d'étanchéité au même titre qu'un gravier, mais avec bien plus de bénéfices.
Oui, vous pensez que végétalisation et panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, c'est complètement compatible.
Alors ça, oui. Le panneau photovoltaïque, on comprend l'utilisation qu'on peut en mettre en cinquième façade, justement sur les toits, et le gain que peuvent avoir les personnes en mettant en place du panneau photovoltaïque, on le voit tout de suite sur les factures. Mais on vient pas en concurrence avec les panneaux photovoltaïques, on vient en fait catalyser leur fonction. Tout simplement, la végétalisation de toiture, c'est quelque chose qui va jouer sur le microclimat des villes. Et tout simplement, abaisser la température ambiante sur le secteur. Le panneau photovoltaïque, il a besoin de rayonnement, il a besoin pour fonctionner. Mais s'il chauffe trop, au bout d'un moment, la machine fatigue et le rendement est moins important. Donc, le fait de végétaliser, il y a des études qui sont sorties très récentes. Hein, ça évolue très rapidement. Les études prouvent qu'on augmente le rendement des panneaux photovoltaïques entre 5 et 10 %. Et comme la machine fatigue moins parce qu'elle chauffe moins, elle peut durer plus longtemps. Donc, on répond à la fonctionnalité de produire quelque chose, donc d'utilisation de cette cinquième façade. On répond aussi aux contraintes de gestion de l'eau, parce que c'est une éponge, la toiture végétalisée, et on répond aussi au développement de la biodiversité en milieu urbain.
Merci Raphaël. Allez, on écoute Jazzy et son titre Rue de la Paix et on reprend. J'ai encore quelques questions à vous poser. À tout de suite.
Je vends mon moto puisque je roule trop vite et que ça me fait peur. Je vends mon magot puisque tant de réussite ne fait pas mon bonheur. Je vends mes charmes et mes armes, ma violence et ma douleur. Je sauve ma peau, vends mon âme au diable. Je vends mon usine avant que l'oxygène ne vienne à nous manquer. Je vends ma gasoline avant que la mer ne vienne mourir à nos pieds. Je sauve la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je sauve les meubles et vends la maison. Pour mettre un hôtel rue de la Paix, pour mettre un hôtel rue de la Paix, un monde où tout le monde s'aimerait. Enfin, j'achète un château en Espagne, j'achète un château en Espagne. J'achète un monde où tout le monde gagne à la fin. Je vends ma carte chance et je puise dans la caisse en a bien mérité. De toucher une avance si c'est pour rendre la caisse à la communauté. Je passe à l'action quitte à monopoliser l'attente. Rester quelques tours en prison. Pour mettre un hôtel rue de la Paix, pour mettre un hôtel rue de la Paix, un monde où tout le monde s'aimerait. Enfin, j'achète un château en Espagne, j'achète un château en Espagne.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur IDFM98.fr.
On reprend cette interview avec Raphaël Dupont de Rhizosphère qui nous sensibilise sur le besoin de végétaliser les zones urbaines. C'est urgent de le faire. Raphaël, vous nous alertez aussi sur le projet de la loi Daduet. Quel est le risque concret pour vos activités et pour les villes?
Alors justement, on parlait tout à l'heure des toitures biosolaires avec le cumul végétalisation et panneaux photovoltaïques. Et là, il y a un texte de loi qui est en train de passer dans le programme de rénovation énergétique des bâtiments où on va favoriser une technique. Alors comme vous pouvez le comprendre, c'est pas la mienne.
Oui.
On va mettre en avant une technique qui est le panneau photovoltaïque au détriment des autres techniques pour lui donner une fonctionnalité à cette cinquième façade. Et c'est là où on comprend pas trop bien ce revirement de situation, parce qu'on parle tous les jours d'inondation, de gestion de l'eau, etc. Et on va plus mettre en avant...
On parle tous les jours de changement climatique.
Voilà. Et moi, j'ai rien contre le panneau photovoltaïque, parce qu'on est complémentaires. Et je peux comprendre l'utilisation. Mais bon, aller défavoriser une technique qui est locale... Parce qu'il faut savoir que nous, par exemple, on est implanté localement, on a une pépinière dans le Vexin, on a des pépinières dans toute la France pour faire de l'écologie pragmatique, c'est éviter d'avoir des camions qui traversent la France et des végétaux qui traversent l'Europe, etc., pour avoir des végétaux adaptés à tous les climats, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les techniques mises en avant qui peuvent venir du monde entier. Bon, là, on est un tissu local, urbain, avec une technique passive, qui est pas intrusive, qui est pas consommatrice énormément d'énergie, que on peut oublier facilement parce qu'on la voit pas forcément, mais qui a une grosse fonction. Et donc là, on comprend pas bien ce refus de cette suppression, parce qu'on était dans la loi et cette mise en avant d'une technique. Et pourquoi on n'a pas mis l'éolien ou d'autres d'autres techniques, je veux dire alternatives? C'est on doit mettre en place des pools de techniques pour avoir une ville plus respirable, plus accueillante et plus en phase avec notre contrainte climatique actuelle. Je veux pas faire d'alarmisme, mais tout simplement être pragmatique et concret. On a des choses qui fonctionnent, qui coûtent pas si cher que ça, mais on va la supprimer. Et ça a été supprimé au Sénat et ça a été non soutenu d'ailleurs par les Verts. Et là, c'est là où on nous comprend.
Et vous pensez qu'il y a un lobby?
Là, clairement, on met en place, grâce à la DIVET, qui est l'interprofession pour la végétalisation du bâti, parce qu'il n'y a pas que les toitures végétalisées, il y a plein d'autres techniques alternatives, pour qu'au Parlement, on alerte le plus, on conçoit le plus en transfert possible de la gauche à la droite. Je veux dire, c'est un bien commun et alerter sur ce sujet pour rétablir cela dans les textes de loi.
Bon, donc un combat à mener
oui,
en plus du
tous
reste.
Les jours.
Bon, pour vous joindre, Raphaël Dupont, que faut-il faire?
Eh bien, vous avez notre site www.rhizosphère.fr. Avec un Y.
C'est ça, oui, comme réseau.
Alors non, on a fait une faute exprès parce que réseau,
oui,
ça vient de grec, c'est RHI. Et nous, là, c'est RYSOSPHERE.
Mais enfin, en tout cas, quand on l'entend, on pense à réseau.
On pense à réseau, c'est très bien. Ça veut dire le lien de la racine et la gestion de l'eau, tout à fait.
Merci infiniment, Raphaël. Merci pour votre engagement fort et puis au service de la société, puis... Comme je disais en préambule, votre volonté de faire bouger les lignes.
C'est pour
merci
tout le monde.
Merci à vous. Merci bien.
IDFM Radio, 98 FM.
Merci d'être resté avec nous. C'est l'économie en direct aujourd'hui, 24 avril 2026, avec Nathalie Gay, fondatrice du Fil Rouge, Raphaël Dupont, cofondateur de Rhizosphère, et Sofiane Leilani, cofondateur Nelixia et Ikigai Manager. Alors Sofiane, on a compris que vous étiez à fond dans l'intelligence artificielle. Vous nous avez expliqué que Nelixia était née de la rencontre de deux experts, c'est ça?
Oui, c'est tout à fait ça. Alors, moi et mon associé, donc Walid, on est issus de la tech. Donc Walid, qui est un mastodonte de la tech, qui a travaillé chez des très gros clients, notamment la Société Générale, BNP, et j'en passe, et qui a connu, je dirais, les prémices de l'IA, qui est tout simplement l'automatisation des tâches et la robotique. Donc il a 17 ans d'expérience, et puis moi de mon côté, donc 10 ans pareil dans la tech, où j'ai accompagné donc pendant ces 10 ans différents clients sur notamment leur transformation digitale à travers mes expériences dans des différents cabinets de conseil. Et donc j'ai vu vraiment en 10 ans l'évolution des projets digitaux chez nos clients, et également la frayeur que tous mes clients ont eu avec l'arrivée de l'IA. Oula, l'IA c'est magique, c'est extraordinaire, là on va faire énormément de profits, mais en même temps il y a une peur qui est arrivée naissante. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va créer un cabinet de conseil, donc Nelixia, qui va accompagner ces différentes structures sur à la fois les rassurer à travers de la formation. On va acculturer les métiers autour de l'IA. Donc ne vous inquiétez pas, l'IA c'est un super pouvoir, mais il faut savoir l'utiliser, et n'ayez pas peur, vous n'allez pas perdre vos emplois.
Oui, parce que c'est souvent le discours qui revient.
Exactement, c'est un discours vraiment à prendre avec énormément de nuances. Et puis ensuite, on va intervenir également sur de la création, le développement d'applications autour de l'IA. Donc là, pareil, ne vous inquiétez pas. Si vous ne savez pas faire, nous, on sait faire, et on va vous développer tout ça, mais en mettant un cadre, notamment autour de la RGPD, de la protection des données, etc. Et enfin, le troisième volet, c'est on intervient également sur de la transformation digitale. Donc là, l'objectif, c'est d'intervenir directement chez le client. Donc on a nos consultants qui interviennent directement dans les équipes de nos clients pour les aider, en tout cas, sur leur projet en y incorporant de l'IA.
Alors, vous dites, vous, que l'IA n'est plus une option, mais un enjeu stratégique pour toutes les entreprises.
Oui, effectivement. Alors, aujourd'hui, l'IA, donc, c'est vraiment un outil compétitif. Donc, c'est ce qui permet à une entreprise de pouvoir être plus rapide que ses concurrents, notamment en réduisant le temps des différentes tâches, des différents projets, en y incorporant l'IA. Donc encore une fois, l'IA ne remplace pas l'homme, mais par contre elle permet à l'homme d'avoir un outil qui lui permet tout simplement d'aller beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que voilà, aujourd'hui...
En tout cas, pour tout ce qui est dans les tâches répétitives et puis...
C'est vrai que aujourd'hui on parle beaucoup de l'IA comme un outil qui va permettre vraiment de réduire les tâches, mais l'IA aussi a cette capacité de réflexion. Après, encore une fois, je mets des pincettes là-dessus, car aujourd'hui la réflexion, pour ma part en tout cas, et je pense que beaucoup de confrères qui travaillent autour de l'IA sont d'accord, c'est qu'aujourd'hui l'IA permet d'apporter un plus dans la réflexion, mais ne remplace pas la réflexion de l'homme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc effectivement, on parle de création, en tout cas d'accélération autour des tâches répétitives, mais en même temps, ça permet aussi d'apporter de la réflexion. Je peux donner un exemple concret.
Oui, je vous en prie.
Il y a un constructeur chinois qui fabrique des fusées, des dispositifs de lancement, et qui a demandé à l'IA, donc à travers différentes maquettes déjà préconçues par l'homme en termes de réacteurs, de fusées, de lui laisser libre cours à son imagination pour développer des nouveaux lanceurs de fusées. Et l'IA, en fait, a commencé à développer des lanceurs de fusées, en tout cas des moteurs de fusées, avec une réflexion qui a été poussée à un point où finalement l'être humain n'aurait jamais pu concevoir ce type de réacteur, ou peut-être dans des dizaines et des dizaines d'années. Donc voilà où l'IA peut en tout cas intervenir.
Alors vous nous citez un exemple justement d'une grosse entreprise. Vous-même, vous accompagnez des acteurs comme Le Figaro, oui, ou dans la finance. Mais est-ce que l'IA est réservée aux grands groupes ? Alors, en tout cas, quand on veut l'exploiter tel que vous le proposez.
Alors non, du coup, l'avantage de l'IA, c'est qu'elle s'adapte à tout type d'entreprise, que ça peut être de la petite PME jusqu'au grand groupe. Elle intervient également dans différentes activités, différents métiers. Elle peut s'intégrer à la fois sur de la comptabilité. Ça peut être, on a cité Le Figaro, mais ça peut être également pour les métiers, notamment les journalistes. Ou même carrément le petit garage du coin qui a tout simplement envie de gérer son nombre de rendez-vous, et là pour le coup l'IA peut l'aider.
Et en ce qui concerne la confidentialité, parce que c'est un vrai problème avec l'IA.
Alors effectivement, en plus on en a discuté juste avant le
juste avant de rentrer dans le studio,
petit débat.
Exactement, il y a eu un petit débat là-dessus. Alors juste petite parenthèse, aujourd'hui au niveau de la réglementation, ça commence à émerger, enfin ça se développe énormément, notamment en Europe avec l'IA Act qui par ailleurs catégorise le niveau de risque, c'est-à-dire risque faible, ça va concerner plutôt les petits chatbots, ChatGPT, etc. Et puis ensuite, niveau moyen, ça va être notamment de l'IA qui va intervenir dans des secteurs d'activité où il peut potentiellement y avoir un risque de données. Et puis ensuite, les risques élevés, ça va être notamment dans le secteur médical, la santé, où là, effectivement, pour le coup, c'est quelque chose de primordial. Et en fait, cette loi, enfin cette réforme, va permettre notamment de pouvoir mettre des règles de jeu pour ces différentes catégories, afin que l'ensemble des acteurs puissent être à jour et puissent consolider cela. Ça, c'est la petite parenthèse. Et puis, d'un autre côté, aujourd'hui, mis à part la réglementation, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des outils qui sont, en tout cas, qui sont développés par des grands groupes, notamment Microsoft, Google, où là, la sécurité est quelque chose de primordial et qui propose des produits IA. Alors, quand on dit produits IA, c'est qu'il peut y avoir énormément de typologies de produits. Hein. Ça peut être du chatbot, ça peut être de l'agent IA, etc. Et là, pour le coup, les entreprises, les grands groupes peuvent sécuriser leurs données à travers cela. Là où il peut y avoir un risque, c'est notamment lorsque vous allez avoir dans un grand groupe un collaborateur qui va dire ah bah j'ai entendu parler d'un outil qui utilise l'IA, ça peut être intéressant, et puis un autre collaborateur qui va parler d'un autre outil open source, et là pour le coup il n'y a aucune maîtrise de la donnée.
Sofiane, est-ce que vous seriez capable de nous dire à quoi va ressembler une entreprise dans 5 ans avec l'IA?
Alors,
5 ans, c'est pas très loin.
Alors, pour ma part, bon, je veux parler de mon avis plutôt personnel et un peu ce qui se dit en tout cas autour de la table au niveau de l'IA. Alors, dans 5 ans, l'IA ne va pas remplacer l'homme. Il va être complémentaire. Je pense que dans 5 ans, les entreprises seront en tout cas mature sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans 5 ans, l'IA, les collaborateurs vont être formés à l'IA, vont savoir l'utiliser, comme on a su utiliser Excel, PowerPoint ou Word. Et puis ensuite, je pense que dans 5 ans, il va émerger de nouveaux métiers, donc des métiers qui vont permettre notamment de développer ces IA-là, mais en même temps de nouveaux métiers parce que le fait de retirer, en tout cas, toutes les tâches chronophages des collaborateurs va permettre, en fait, à l'homme de se libérer du temps pour réfléchir à de nouveaux projets, à de nouvelles solutions. Et pour le coup, ça va, pour ma part, à la fois déjà créer de l'emploi et en même temps, ça va permettre l'émergence de nouvelles solutions parce que ça va tout simplement donner libre cours à l'homme de pouvoir prendre du temps pour réfléchir en tout cas
aller plus loin dans sa recherche. Donc enfin un discours positif par rapport à l'IA. Nathalie, vous l'utilisez forcément quand vous faites des recherches?
Alors j'utilise très peu l'IA en fait. Pour le coup, à chaque fois que j'ai voulu l'utiliser sur mes sujets à moi, je n'ai strictement rien trouvé de pertinent ou très peu.
C'est vrai.
Donc en fait Non, c'est vraiment un outil que j'utilise pas. Et puis, mon travail, c'est quand même essentiellement la question de la relation, de l'écoute. Alors, je fais des recherches.
Non, mais peut-être pour faire une recherche sur un.
Sur des sujets spécifiques, ça peut m'arriver. Mais après, en fait, là où moi, quand je fais mes recherches, je les fais davantage sur des sites qui, pour moi, sont des sites référents sur des thématiques où je sais quelles ressources et quelles pertinences où on va chercher. Mais après, ça m'est déjà arrivé de demander à Ilia, OK, voilà, j'ai telle question, dites-moi quels sont les sites ressources sur lesquels vous avez pris. Le problème, c'est que c'est souvent des sites standards, c'est
déjà,
ceux qui payent, en fait.
Ça vous apprend rien de plus.
Soit ça m'apprend rien de plus, soit les ressources sont pas suffisamment fiables pour ce que je recherche, moi, en fait.
Merci, Nathalie. Sofiane, vous êtes donc en plein développement avec plusieurs missions et cette plateforme en croissance de Ikigai Manager, qu'est-ce qu'elle apporte concrètement?
Oui, alors effectivement, donc on a créé Nelixia du coup qui vise comme je l'ai dit à accompagner les entreprises sur l'émergence de l'IA. Et puis en cours de parcours, étant donné que Walid et moi nous avons beaucoup travaillé au sein de cabinets de conseil type ESN. Alors juste pour expliquer ce que c'est une ESN, c'est un cabinet de conseil qui va intervenir directement chez les clients en proposant des consultants spécialisés dans un domaine pour réaliser des projets digitaux. Ça peut être des développeurs, ça peut être des chefs de projet, etc. Et Ikigai Manager, l'objectif de cette plateforme, c'est tous...
Oui, vous dites Ikigai, pardon. Moi,
oui,
je disais Ikigai.
Je
prononçais à la japonaise.
Bah, exactement. Alors moi, j'ai du mal avec le Japon. Avec le japonais. Mais oui, effectivement, Ikigai Manager, l'objectif de cette plateforme, c'est de pouvoir en fait aider les commerciaux qui sont en ESN de faire matcher très rapidement leurs appels d'offres avec des consultants qui sont actuellement sur le marché. Et là, pour le coup, on utilise de l'IA qui va permettre, tout simplement, d'analyser les appels d'offres et puis ensuite rechercher donc le fameux consultant qui correspond à cet appel d'offres, tout en expliquant pourquoi ce consultant peut aider, en tout cas, ce client sur ce projet-là.
Aujourd'hui, plusieurs personnes disent que trop d'IA peut tuer l'IA. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui. Alors c'est marrant, on a eu ce débat là juste avant.
C'est quand je préparais les cafés.
Exactement. Donc oui, effectivement, trop d'IA tue l'IA dans le sens où aujourd'hui l'IA est mal utilisée. Pour la majorité des gens, ça peut être à la fois dans les entreprises, mais également aussi chez les particuliers, parce que tout simplement, l'IA demande quand même une certaine préparation, c'est-à-dire, il faut vraiment bien orienter l'IA pour éviter qu'elle sorte tout et n'importe quoi. Et pour le coup, rajouter de l'IA sur toutes les tâches peut nous induire en erreur. Et c'est pour ça que je dis souvent.
Il faut savoir donc la maîtriser et puis bien l'utiliser.
Exactement. En fait, c'est surtout ça. Il faut savoir la maîtriser. Il faut savoir aussi la guider, parce qu'une IA, une IA apprend tous les jours à partir du net, à partir de ce qu'on va lui donner.
Oui, elle se nourrit de tout ce qu'on lui donne.
Et surtout que l'IA a cette fâcheuse tendance à toujours vouloir être d'accord avec ce qu'on dit.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire à partir du moment où on va orienter la question pour pousser l'IA à nous dire oui, bah tout à fait, Sofiane, tu as raison. Pour le coup, elle va nous sortir ça, même si elle est en tort. Et c'est pour ça qu'il faut il faut une certaine éducation, une certaine éducation autour de
une certaine maturité.
Exactement.
Sofiane, comment vous joindre?
Alors, pour me joindre, c'est très simple. Donc, c'est soit sur notre site, www.nelixia.com, ou sinon directement sur LinkedIn. Donc, soit par Nelixia, soit par Sofiane Elhany.
Très bien. Bah, écoutez, merci à vous pour cet éclairage très concret sur l'intelligence artificielle, un petit peu loin des fantasmes, et puis votre volonté de la rendre plus accessible et utile au grand nombre d'entreprises.
Exactement.
Merci à vous. Alors, on fait une pause et je vous propose d'écouter Ma préférence par Julien Clerc.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. Ma préférence à moi. Ma préférence à moi.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et notre émission arrive à la fin. Mais pendant cette pause, on se disait qu'on pourrait recommencer l'émission sur d'autres thèmes avec l'humain, la physiologie et l'écologie, puisque on a bien compris que l'IA a été quand même source de plusieurs réflexions. Hein. Ben vous reviendrez, voilà, on fera une émission tous les trois, et puis peut-être avec Walid alors. Je vous quelques mots avant de nous quitter. On refait le tour dans le même sens. Donc Nathalie, un mot avant de nous quitter. Je vous ai pas demandé, Nathalie, comment vous joindre.
Moi, sur mon site internet, lefilrougedoula.fr.
D'accord.
Après, je suis aussi sur Instagram et LinkedIn.
Très bien.
Moi, ce que j'ai aimé là dans cette rencontre ce matin, c'est en fait il y a beaucoup de liens finalement, et c'est ce qu'on se disait entre nos activités. L'IA, parce que voilà, comme tu le soulignais tout à l'heure, elle impacte aussi le fonctionnement de notre cerveau, notre capacité de réflexion.
Absolument.
Or aujourd'hui, être acteur, avoir un esprit critique, écouter ses limites, ses besoins, se respecter, ça passe par toutes ces questions de relations et d'humains. Et le lien que je fais avec Rhizosphère, c'est vraiment la question du respect du vivant, des cycles, que ce soit des cycles de l'eau, des cycles de vie, du cycle de la vie aussi. Donc c'est vraiment hyper chouette. Oui, et merci beaucoup
belle rencontre,
pour cette
bien,
invitation.
Écoutez, moi j'adore quand il y a cette symbiose et je dois me féliciter que ça arrive souvent quand même. Voilà, oui. Merci Nathalie Gay, à bientôt.
Merci.
Donc Raphaël Dupont, vous, votre mot de conclusion ?
Merci aussi pour les rencontres très enrichissantes, et je fais le même lien également entre ta fonction, Nathalie, le respect du vivant. On travaille tous dans ce sens, mais aussi le respect du vivant dans le milieu du travail, etc., avec le développement de l'IA dans le respect de l'humain. Et puis bon, on a une connexion aussi, parce que je construis, on fait appel à nos services pour les data centers, oui. pour l'IA, qui, bah, il faut.
Qui ont besoin de végétalisation.
Bah oui, pour refroidir et pour intégrer les bâtiments. Donc, on a un lien tous les trois.
Complètement.
Mais merci encore.
Bah écoutez, merci à vous. C'était le hasard, mais qui a bien fait les choses. Merci, Raphaël. Ouais, Sofiane, je veux vraiment vous appeler Walid. Sofiane, donc votre mot de conclusion.
Oui, bah déjà merci pour l'invitation. Effectivement, c'est vrai que ce matin, on a trois activités qui sont complémentaires. Bon, je vais pas redire ce que vous avez dit, parce qu'on est tous d'accord là-dessus que l'humain, l'IA et notamment l'écologie sont étroitement liés. Moi, je vais surtout au niveau de l'IA. Donc, comme je le disais, l'IA c'est une source de promesses. C'est une source qui va notamment nous apporter énormément de bonnes choses. Mais cela va dépendre de comment on va réussir à l'utiliser. Et c'est vrai que effectivement, on a discuté beaucoup des data centers qui sont qui polluent énormément la planète. Et c'est pour ça que je reviens sur le fait que l'IA doit être vraiment utilisée par parcimonie, de manière vraiment...
Avec intelligence, pour le coup. Intelligence humaine.
Exactement.
Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci, Sofiane. Eh bien, en tout cas, merci à chacun pour votre expertise et nous en avoir fait profiter. On vous souhaite le meilleur pour la poursuite de votre parcours. Et moi, je conclurai en disant un petit peu, reprendre ce que vous venez de dire, que ce soit à l'échelle du corps humain, de nos territoires ou de l'intelligence artificielle, une chose ressort clairement de cette émission. C'est mieux comprendre, c'est déjà agir pour soi, pour les autres et pour un avenir plus équilibré. Merci à vous tous, auditrices, auditeurs, de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr. Mardi, nouvelle émission. D'ici là, belle journée et bon week-end. Mais surtout, restez branchés sur IDFM Radio, parce que les programmes se poursuivent et voilà, ce serait dommage de les manquer. À bientôt.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Bonjour, retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec toute la culture que j'aime.
toute la culture que j'aime. C'est votre rendez-vous avec Marie-Laure
et Agnès
en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur.
Théâtre, littérature, musique, sorties.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.
Retrouvez-moi, Benoît, tous les 2e et 4e dimanche du mois de 23h à minuit pour Grabuge, l'émission métal et musique extrême. Partage ma passion, la musique métal. Rendez-vous des métalleux insomniaques de 23h à minuit, les 2e et 4e dimanche du mois. Grabuge pour le plaisir et bien finir la semaine et dégourdir vos oreilles. Grabuge, tous les 2e et 4e dimanche du mois sur IDFM Radio.
Pourquoi t'es en retard? Je t'avais dit de rentrer à l'heure.
J'étais dans les bouchons.
Menteuse, tu me fais le coup à chaque fois. T'étais encore en train de me tromper, hein? Regarde-moi, sale p***.
Aïe! Arrête! C'est blague!
Tu fais mal à maman!
Va dans la chambre, je te dis. Tu vas souffrir ce soir.
Les violences conjugales, ça commence quand?
Si vous pensez être victime, ne restez pas seul. Contactez le 3919.
Dans les moments importants de votre vie, vous avez besoin d'un repère solide. Que ce soit pour défendre vos droits, protéger votre famille ou accompagner votre entreprise, un avocat du barreau du Val-d'Oise est à vos côtés. Les avocats du Val-d'Oise, ce sont des professionnels formés, indépendants et à l'écoute. Que vous soyez Argenteuil, Cergy, Sarcelles ou Pontoise, il y a toujours un avocat près de vous. Retrouvez les dates et les lieux de consultation gratuites destinés aux particuliers et aux entreprises sur le site du barreau du Val-d'Oise. Barreau du Val-d'Oise, l'expertise juridique à votre service. Tous les lundis, de 21h à 22h, retrouvez Rose pour l'émission Contradiction sur IDFM Radio. Un temps dédié aux gens qui se donnent du mal pour aller bien.